Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La réponse du chef du Hezbollah après les explosions simultanées des beepers et autres appareils de transmission du mouvement mardi et hier, Hassan Nasrallah a dénoncé un massacre sans précédent. Une opération qui fait craindre un embrasement régional. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence demain. La coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban rappelle à tous les acteurs concernés que les civils ne sont pas une cible et doivent être protégés à tout moment. Face à cette situation au Liban, la France craint une escalade dangereuse des tensions dans la région. Le président Emmanuel Macron a appelé aujourd'hui toutes les parties à agir pour éviter la guerre. Ces attaques font réagir la classe politique française. Nous écouterons la députée porte-parole du Parti Socialiste Dienaba Diop. Entretien aussi avec la députée LFI Aurélie Trouvé. C'est oui, l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte une résolution qui exige la fin de l'occupation de la Palestine par Israël dans les 12 prochains mois. La France reste dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Matignon affirme que le Premier ministre Michel Barnier mène aujourd'hui sa dernière journée de consultation. Nous y reviendrons avec le député du groupe Les Démocrates, Romain Daubier. 37 morts et plus de 3500 blessés. Le dernier bilan de la série d'explosions meurtrières de beepers et autres appareils de transmission du Hezbollah au Liban. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est exprimé en fin d'après-midi. Ce qui s'est passé pourrait, dit-il, être qualifié de déclaration de guerre. Il a dénoncé un grand massacre dans tout le pays, un massacre sans précédent. Le chef du Hezbollah accuse Israël d'avoir enfreint toutes les règles d'affrontement. Il évoque un dépassement de toutes les lois et lignes rouges. Hassan Nasrallah assure que le front libanais ne s'arrêtera pas avant la fin de la guerre à Gaza. Il affirme que le Hezbollah a ouvert une enquête interne sur les explosions des systèmes de transmission. Il s'est adressé aux dirigeants israéliens avec ces mots: « Vous ne pourrez pas ramener les habitants du Nord déplacés chez eux ». Pendant l'intervention d'Hassan Nasrallah, l'aviation israélienne a mené une série de raids tout le long de la frontière libanaise. L'aviation qui a passé le mur du son à très basse altitude au-dessus de Beyrouth, où deux fortes détonations ont été entendues. L'armée israélienne, qui plus tôt avait annoncé avoir frappé la nuit dernière 6 sites d'infrastructures du Hezbollah et un dépôt d'armes dans le sud du Liban. Des frappes sur fond donc de crainte de guerre à grande échelle avec le Hezbollah. Le Hezbollah et l'armée israélienne échangent des tirs frontaliers quasi quotidiennement depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre entre Israël et le Hamas. Face à cette situation au Liban, la France craint une escalade dangereuse des tensions dans la région. Le président français Emmanuel Macron a appelé aujourd'hui toutes les parties à agir pour éviter la guerre. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre libanais Najib Mikati, le président de la Chambre des députés Nabi Berri et le commandant des forces armées libanaises. Ces attaques au Liban font réagir la classe politique française. La députée et porte-parole du Parti socialiste Dienaba Diop.
Évidemment, d'abord toutes mes pensées aux victimes et aux proches des victimes, puisque effectivement nous sommes dans la douleur de cet événement, et puis la crainte évidemment d'une escalade dans cette partie du monde, alors que nous avons déjà tant à faire au Proche-Orient avec la situation qui nous occupe dans la bande de Gaza. Donc j'espère que nous pourrons très vite intervenir et surtout protéger toutes celles et ceux qui sont les civils et qui sont les victimes malheureusement collatérales de cette attaque. J'espère surtout que nous serons en capacité d'avoir très vite des interlocuteurs pour essayer de calmer la situation rapidement.
Et on l'a entendu, vous évoquiez les victimes civiles libanaises suite à ce qui s'est produit.
Bien sûr, c'est-à-dire que nous avons une pensée particulière pour toutes ces victimes civiles qui n'avaient rien demandé et qui se retrouvent pris en étau de ces attaques et qui malheureusement, pour beaucoup, vous l'avez rappelé, ont perdu la vie lors de cette attaque.
Face à cette situation et à ce risque d'escalade dans la région, quelle est la marge de manœuvre, notamment de la France aujourd'hui ?
Eh bien, je crois que la France doit surtout avoir un regard qui soit, enfin surtout porter une voix auprès non seulement de l'ONU, mais surtout auprès des autorités avec lesquelles elle peut prendre attache pour essayer de savoir pourquoi c'est arrivé et puis surtout comment elle peut les soutenir pour que très très vite il n'y ait pas d'escalade, puisqu'on sait très bien que la situation est inflammable dans cette partie du monde et que nous ne pouvons pas de nouveau avoir un nouveau foyer d'affrontement au sein du Liban, qui est déjà très affecté et qui, depuis des années, peine à retrouver une situation stable.
avec des liens proches entre la France et le Liban. On se souvient bien entendu des déplacements d'Emmanuel Macron au Liban pour tenter de faire face à la crise économique. C'est important de le souligner aujourd'hui aussi.
Bien sûr, et je crois qu'il faut que nous restions aux côtés du Liban très vite pour justement l'aider à résister aux forces justement islamistes qui pourraient profiter de ce moment de faiblesse pour de nouveau arriver au pouvoir. On voit malheureusement l'exemple iranien ou encore en Afghanistan. Donc il faut absolument protéger tout de suite les populations civiles, être aux côtés justement de celles et ceux qui en ont le plus besoin pour éviter que, encore une fois, nous puissions avoir la mainmise des islamistes par la voie de justement du Hezbollah sur ce pays. Et je crois qu'il est important qu'on puisse lui redire encore une fois qu'on est à ses côtés et que nous n'abandonnerons pas les populations civiles du Liban.
Vous comptez également sur l'action des différents médiateurs, ces médiateurs qui sont actifs depuis le début de cette crise et notamment depuis le 7 octobre dernier.
Bien sûr, nous avons absolument besoin que ces médiateurs puissent continuer à œuvrer à un cessez-le-feu le plus rapide possible. Il faut ne pas oublier aussi tous les otages des deux côtés qui sont toujours retenus. Donc je crois que c'est notre devoir et c'est surtout pour notre sécurité et la sécurité de toute cette région, de protéger la population libanaise, de faire en sorte qu'il continue à être ce médiateur dans cette partie du monde. Et pour cela, il faut être à ses côtés et le soutenir et ne pas le laisser tomber aux mains de puissances qui, on le sait, ne feront pas du tout évoluer la situation et au contraire, plongeraient le Liban dans une situation que nous ne le souhaitons pas.
Yenaba Diop, députée porte-parole du Parti Socialiste. Parmi les dernières réactions internationales, la ministre allemande des Affaires étrangères a mis en garde aujourd'hui toutes les parties contre une escalade au Proche-Orient. Attaque et contre-attaque ne font pas, dit-elle, avancer d'un millimètre la région vers la paix. Aux États-Unis, un porte-parole de la Maison-Blanche a lui aussi mis en garde contre toute escalade. Il souligne que les États-Unis ne sont pas impliqués dans ces opérations. La Turquie accuse Israël d'étendre la guerre au Liban. Et le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence demain, une réunion demandée par l'Algérie. L'ONU déplore une escalade extrêmement préoccupante dans un contexte déjà inacceptablement instable. La coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban rappelle à tous les acteurs concernés que les civils ne sont pas une cible et doivent être protégés à tout moment. Elle souligne que même une seule victime civile est une victime de trop. Réaction à présent suite à ces attaques au Liban de la députée LFI de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé.
À la France Insoumise, nous alertons depuis des mois et des mois de l'instabilité croissante au Proche-Orient et du risque de guerre tout simplement, qui s'étendent au-delà des territoires palestiniens, tout simplement parce que tant que le gouvernement d'Israël continuera ses crimes de guerre, poursuivra son génocide, eh bien, il n'y aura pas de paix au Proche-Orient. Donc la première chose pour rétablir la paix au Proche-Orient, eh bien, c'est tout simplement, je sais que c'est pas simple, mais c'est tout simplement de faire en sorte que la paix soit instaurée à Gaza, c'est-à-dire qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, et la France doit continuer de le réclamer, mais il faut aussi des actes concrets. Et notamment, nous disons au chef de l'État français qu'il faut aujourd'hui reconnaître l'État palestinien et les droits des Palestiniens. Il faut aujourd'hui cesser toute livraison d'armes au gouvernement d'Israël, mais aussi se battre, par exemple, pour des sanctions très claires contre l'État d'Israël, hein, qui est aujourd'hui en situation de criminel de guerre. Il faut, par exemple, cesser l'accord entre l'Union européenne et l'État d'Israël, puisque c'est conditionné, cet accord, eh bien, au respect des droits humains. Donc aujourd'hui, le chef de l'État français pourrait aller beaucoup plus loin pour faire en sorte, justement, eh bien, qu'il y ait réellement une paix instaurée à Gaza. Et ça signifie, eh bien, d'exiger de la part de l'État d'Israël de cesser les massacres qui sont en cours, et malheureusement l'État français ne le fait pas, et donc nous, la France insoumise, nous continuerons à l'exiger mais aussi à nous mobiliser avec toutes les forces citoyennes qui le souhaitent, et par exemple il y a une mobilisation à nouveau prévue le 5 octobre.
On l'entend, vous craignez bien entendu une escalade dans la région et notamment au Liban, le Liban qui vit de multiples crises économiques, sécuritaires également. La France a fait part de son soutien à ce pays à de nombreuses reprises. Emmanuel Macron s'est même rendu sur place il y a plusieurs mois avant sa réélection. Comment la France peut-elle aujourd'hui aider cet ami historique ?
D'abord, c'est de retrouver une diplomatie réellement, je dirais, de pays non alignés, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a perdu cette diplomatie-là, de pays non alignés qui puissent dialoguer avec l'ensemble des grandes puissances et l'ensemble notamment des grandes puissances du Proche-Orient. Et aujourd'hui, il est clair que l'appui implicite ou même explicite de l'État français à l'État d'Israël est évidemment un énorme problème, dans le sens où l'État d'Israël est en train de réaliser des crimes de guerre. Donc c'est la première étape à réaliser pour retrouver des relations diplomatiques qui soient efficaces dans l'instauration de la paix au Proche-Orient et notamment pour réinstaurer des relations diplomatiques efficaces avec le Liban et l'ensemble de ces pays-là.
Vous portez quel regard aujourd'hui sur l'action des médiateurs depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis l'attaque du Hamas en Israël et la réponse ensuite d'Israël à Gaza ?
Et quel que soit, d'ailleurs, Dominique de Villepin le dit tout autant que Jean-Luc Mélenchon, hein, tant qu'il n'y aura pas de position claire de la part de chefs de l'État français sur la reconnaissance des droits des Palestiniens, sur l'instauration réellement d'une paix à Gaza, il sera extrêmement compliqué, de toute manière, pour tout médiateur, de rétablir une confiance avec l'ensemble des puissances du Proche-Orient. Donc ça passe d'abord par ça. Les médiateurs pourront faire ce qu'ils veulent. Si le chef de l'État français ne retrouve pas la position historique diplomatique de la France de non-alignement et de dialogue avec l'ensemble des puissances, mais aussi de respect du droit international, parce que je rappelle que l'État d'Israël a été condamné par la Cour internationale de justice, tant que le chef de l'État français ne retrouvera pas ce respect du droit international et ce non-alignement, alors les médiateurs pourront faire ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas de relations diplomatiques efficaces.
Vous avez cité Dominique de Villepin, qui était présent à la Fête de l'Humanité le week-end dernier, qui a d'ailleurs été très applaudi. Vous saluez son positionnement aujourd'hui ?
Tout à fait. Je le trouve courageux, mais je crois qu'il fait partie d'une tradition diplomatique de non-alignement qui a été celle de la France jusqu'au début des années 2000 et qui malheureusement a été petit à petit amoindrie, détruite même. Et je vous le dis d'ailleurs, je retrouve dans les positions de Dominique de Villepin les positions par exemple de Jean-Luc Mélenchon et je crois qu'il y a une convergence. Et de ce point de vue, oui, il y a une forme d'accord sur ce que devrait être une politique de non-alignement de l'État français qui a malheureusement détruit des années de Macronie, mais avant ça aussi également sous le président François Hollande ou même sous la présidence Sarkozy.
Pour vous, ce n'était pas Dominique de Villepin qui a changé, mais la diplomatie française ?
La diplomatie française, je pense, a perdu sa fonction de non-alignement et donc toute son efficacité, en particulier à partir des années Sarkozy, puis Hollande, puis Macron. Il y a eu une détérioration progressive de cette diplomatie historique qui a été extrêmement importante pour le maintien de la paix dans le monde, parce que la France jouait un rôle très particulier de dialogue avec l'ensemble des puissances.
Aurélie Trouvé, députée LFI de la Seine-Saint-Denis. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté hier à une très large majorité une résolution exigeant la fin de l'occupation de la Palestine par Israël, cela dans les 12 prochains mois. Un texte adopté par 124 votes pour, 14 contre et 43 abstentions. Le vote s'est déroulé au deuxième jour d'une session extraordinaire d'urgence. La France reste dans l'attente d'un nouveau gouvernement. L'objectif du nouveau Premier ministre est de former un gouvernement qui pourrait éviter une motion de censure. Matignon assure que Michel Barnier a mené aujourd'hui sa dernière journée de consultation. Michel Barnier qui a alerté sur la situation budgétaire de la France. Nous y revenons avec le député du groupe Les Démocrates, Romain Daubier.
Moi, je ne découvre pas aujourd'hui qu'on doit réformer l'État et qu'on doit respecter l'argent public qu'on dépense. Après, ça peut être aussi un jeu quand on arrive, quelque part un jeu de rôle, quand on arrive quelque part de dire la situation est dure et attention. Mais c'est le sujet de la dette a toujours été un sujet, moins quand on avait des taux d'intérêt négatifs ou à zéro comme à une époque. Mais c'est un sujet auquel il faut faire attention et ça suppose que tous les parlementaires, quand on sera sur la loi de finances, qu'on propose plutôt des amendements d'économie plutôt que des amendements de dépenses nouvelles.
Est-ce que cela pourrait passer par une hausse d'impôts ou est-ce que cela reste un tabou pour vous aussi ?
Moi, je fais partie de ceux qu'on pense qu'on peut faire une dépense publique plus efficace sans hausse généralisée et massive des impôts. En particulier, on a tous vu le rapport Oxfam qui est revenu. Je ne crois pas du tout que ça soit une justice sociale ou fiscale, de mettre un impôt supplémentaire et d'augmenter l'impôt sur la mort, l'impôt sur les successions qu'on a en France.
Et plaidez-vous notamment pour la suppression de certaines niches fiscales, et si oui, lesquelles?
Il y a certainement un travail sur les niches fiscales à refaire, sur l'efficacité. La plus importante en milliards, parce que c'est important de se concentrer, c'est important, c'est le crédit impôt recherche. Est-ce que les critères du crédit impôt recherche qui ont été fixés il y a des dizaines d'années sont toujours aussi intéressants à l'heure où on vit, où il y a plus de dématérialisation, plus d'intelligence artificielle? Il y a certainement des choses à approfondir, sans pour autant revenir sur le fait que la France doit rester une terre d'innovation, une terre de recherche pour les entreprises privées comme pour la recherche privée.
Vous portez quel regard sur les difficultés aujourd'hui, apparentes en tous les cas, du Premier ministre à former son équipe, son gouvernement?
Personne ne découvre à la fin du mois de septembre que personne n'a gagné les élections législatives, qu'il n'y a pas de majorité claire et que ça suppose de changer le logiciel en faisant travailler des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, mais dans l'intérêt de la France. Pour moi, il n'y a qu'une seule solution. Il faut un succès de M. Barnier, parce que c'est le succès de la France et des Français à travers lui, qu'un échec de M. Barnier serait une catastrophe. Pas tellement pour M. Barnier, mais surtout pour la France en tant que nation et pour tous les Français.
Un départ de M. Barnier avant même la composition de son gouvernement, ce serait une catastrophe, c'est aussi ce que vous dites, ou alors vous ne l'imaginez même pas?
Un départ avant son gouvernement, ou que le budget ne puisse pas, qu'on puisse pas se voter le budget d'ici à la fin de l'année. Donc je pense qu'il faut avoir un sens de responsabilité. Que des gens aient des ambitions présidentielles en 2027, c'est pas mon cas, c'est une bonne chose, mais là il faut penser, faut travailler ensemble. Il faut de l'apaisement et il faut penser à la France et aux Français.
Romain Daubier, député apparenté au groupe Les Démocrates. Vous êtes bien sûr Radio Orient à 19h et 23h. Et si on en parlait, le thème de cette émission, élection présidentielle du 6 octobre, où va la Tunisie? Alexis Bachelet reçoit Atem Nafti, essayiste, et Brahim Oumansour, directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'IRIS. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.